débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Le Yémen est désormais le nouveau terrain de la guerre régionale qui oppose puissances chiites et sunnites, et l'Iran, chiite, est accusé d'être militairement présent auprès des rebelles houthis, tombeurs du président yéménite sunnite Abrabo Mansour Hadi. Au Liban, en Syrie, en Irak ou dans la bande de Gaza, l'Iran semble faire avancer ses pions face à une coalition de pays arabes mobilisés par l'Arabie Saoudite. Alors, l'influence de l'Iran s'accroît-elle dans la région, et la perspective désormais d'un accord sur le nucléaire iranien va-t-il lui donner davantage de poids encore? L'Iran mène-t-il une politique expansionniste? On en parle avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Denis Bochard est ancien ambassadeur en Jordanie, ancien président de l'Institut du Monde Arabe et conseiller à l'IFRI, c'est l'Institut Français des Relations Internationales. Vous êtes aussi l'auteur, Denis Bochard, du Nouveau Monde Arabe. C'est aux éditions André Versailles. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis Thierry Coville est spécialiste de l'Iran, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur, lui, de Iran, la révolution invisible aux éditions La Découverte. Bonsoir Thierry Coville.
Oui, bonsoir.
Alors, un mot de l'actualité avant d'entamer notre conversation. La nouvelle vient de tomber concernant l'accord sur le nucléaire iranien. Le texte d'un accord final sera rédigé d'ici le 30 juin. C'est ce qu'a dit le président iranien Hassan Rouhani. Peut-être un court commentaire de votre part, on y reviendra un peu plus tard dans le débat, à ce propos, Thierry Bochard, Denis Bochard.
Oui, il y a eu un suspense jusqu'au dernier moment, mais cette nouvelle est une nouvelle certainement importante, un tournant non seulement dans les relations entre les États-Unis et l'Iran, ou entre l'Occident et l'Iran, mais un tournant sans doute pour le Moyen-Orient dans son ensemble, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Ceci étant, il y a encore une mise en musique à faire, et il y a aussi des aspects de politique intérieure qui vont se poser aussi bien du côté américain que du côté iranien. Est-ce que la mise en œuvre de cet accord va pouvoir se faire sans crispation, sans heurts? Il est clair que le président Rouhani a en Iran une forte opposition des éléments les plus conservateurs. Et aux États-Unis, le président américain, effectivement, doit compter avec un congrès qui lui est hostile, et avec, effectivement, une influence du lobby israélien qui est également fort auprès de ce congrès et politiquement très fort.
Qu'est-ce que vous pensez, Thierry Coville, de la perspective de cet accord?
Monsieur Bochard vient de dire l'essentiel. Moi, je noterais simplement que tous ceux qui nous racontaient que c'était pas possible de négocier avec l'Iran, et qui nous racontent depuis un certain nombre d'années, c'est le démenti formel. Le processus de négociation entamé en novembre 2013, alors ça a été compliqué. Enfin, négocier avec l'Iran, c'est jamais facile. Enfin, là, il y a un premier début d'une sortie de crise, et c'est mieux que ça se passe par les négociations que par les bombes ou par les sanctions. Donc, négocier avec l'Iran, c'est difficile, mais enfin, si ces négociations sérieuses, chaque camp fait des concessions, on peut arriver à un résultat. Et effectivement, ça annonce peut-être aussi d'autres négociations sur d'autres sujets.
Sur la présence, par exemple, de cette guerre qui commence à s'installer au Yémen. Enfin, ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. Est-ce que l'Iran est au Yémen aux côtés des rebelles houthis, comme l'affirme l'Arabie Saoudite, ou est-ce que cette vision des choses doit être nuancée par la rivalité qui existe entre les deux pays, Denis Bochard?
Ce qui se passe au Yémen est finalement assez étrange, parce que en fait, au départ, c'est une querelle purement tribale. Les houthistes sont en affrontement avec le pouvoir central à Sanaa depuis de nombreuses années, depuis pratiquement la fin des années 2000. Et c'est une querelle qui n'est d'ailleurs pas propre aux houthistes. Il y a d'autres tribus qui s'étaient en conflit avec le pouvoir central à l'époque, le président Saleh.
La présence de l'Iran.
Alors, la présence de l'Iran systématiquement se pose en protecteur des minorités chiites. Et effectivement, les houthistes sont des zaïdites, c'est-à-dire une sorte de chiisme qui n'est pas d'ailleurs celui qui existe en Iran. Et effectivement, ils se sont posés d'emblée comme protecteurs et ont sans doute apporté des soutiens, mais à mon avis, des soutiens relativement limités. Un soutien politique, peut-être un soutien en matière de formation, voire en matière d'armement. Mais je pense que l'Iran a des intérêts beaucoup plus importants ailleurs, en particulier en Irak, Turquie et en Syrie et au Liban.
Alors parlons de l'Irak justement. Est-ce que l'Iran est militairement engagé sur les champs de bataille là-bas? Est-ce que les Iraniens par exemple ont été déterminants en Irak à Tikrit?
Ah oui, c'est clair. Mais si vous voulez, justement, avec toute la, on a eu une campagne de communication ces derniers jours assez étonnante, effectivement, du genre, on est à Netanyahou, on est habitué, mais genre l'Iran envahit le Moyen-Orient, quoi. Donc en Irak, il faut quand même rappeler un peu l'histoire, c'est que Saddam Hussein a attaqué l'Iran au début des années 80. Les Nations Unies n'ont rien dit et ça a été un traumatisme. C'est-à-dire là, toute, si vous voulez, la façon de penser des dirigeants iraniens, il faut toujours se référer à la guerre Iran-Irak. Et donc, si vous voulez, en fait, la menace stratégique principale de l'Iran, et c'est très clair, ils le disent, il suffit de lire un petit peu ce qu'ils disent, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Résultat, quand les Américains ont renversé Saddam Hussein, je me rappelle très bien le discours du guide Ali Khamenei, la première chose qu'il a dit, nous sommes contents. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la région qui ait dit ça ce jour-là. Hein. Il a dit, nous sommes contents, notre ennemi bassiste a disparu et c'est un ennemi des Iraniens. Deuxième chose qu'il a dit, la résistance va continuer, il s'était pas trop trompé. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? L'Iran, depuis le début, a dit, mais je veux dire, c'est clair, leur problème stratégique, ils veulent avoir un gouvernement ami, ce qui veut dire ami, effectivement, chiite, en Irak. Le reste, ça leur est égal. Donc, effectivement, ils ont été le seul à soutenir le gouvernement chiite en Irak depuis qu'ils sont arrivés. Et quand l'État islamique a commencé à déferler en Irak, donc à l'été 2014, et s'est rapproché des frontières iraniennes, moi je suis allé en Iran en août 2014, la population, quelque part, l'homme de la rue, il avait peur. Quand même, vous voyez ce que fait l'État islamique aux chiites. Donc, les Iraniens ont peur. Donc, il y avait le feu au lac, quoi. Il y avait le feu à la maison. Ils ont envoyé, mais ils le disent, donc Soleimani, mais des conseillers militaires iraniens pour aider l'armée irakienne à résister à l'attaque de Daesh. Donc, c'est pas du tout envahir l'Irak, c'est aider l'armée irakienne et les milices chiites à résister contre Daesh.
Est-ce que la lecture d'un conflit entre chiites et sunnites permet de comprendre les guerres qui embrasent la région en ce moment?
C'est une très vieille histoire, puisque le clivage entre sunnites et chiites date du tout début de l'islam. C'était au départ une querelle dynastique qui avec ensuite effectivement des évolutions tout à fait différentes de part et d'autre. C'est une querelle qui s'est développée de façon assez continue. L'élément nouveau, sans doute, c'est que de plus en plus, il apparaît que par-delà ce clivage sunnite-chiite, il y a un affrontement procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont deux grandes puissances, qui se veulent deux grandes puissances autour du Golfe. L'Arabie Saoudite se veut le leader du monde musulman. À l'évidence, l'Iran représente pour elle à la fois une menace, je dirais d'abord démographique, un déséquilibre considérable entre la population des deux pays, et également un concurrent en termes religieux. Et à l'inverse, effectivement, l'Iran entend considérer que le Golfe est un Golfe persique et entend bien, je dirais, exercer une influence sur cette région.
Alors, vous nous dites que le conflit n'est pas tant motivé finalement par des raisons religieuses que par une volonté de suprématie géopolitique. Vous êtes d'accord, Thierry?
Oui, tout à fait. Je pense que, je dirais, il faut vraiment se méfier de ce qu'on nous sort quand même. Alors, pas dans votre émission, mais la soupe sunnite-chiite qu'on nous sort quand même tous les jours dans les médias du genre. En gros, ils sont destinés, et je trouve qu'il n'y a pas quelque chose de méprisant et de assez scandaleux. Comme tout le monde qui va au Moyen-Orient, on le sait, il y a plein d'endroits, ils vivent très bien ensemble, il y a plein d'endroits, ils prient dans les mêmes mosquées. Donc, il n'y a absolument aucune raison. Si vous voulez, il y a un conflit religieux, effectivement, qui remonte à longtemps, mais ils peuvent vivre en harmonie. Alors là, il y a des facteurs politiques, je veux dire, c'est des facteurs politiques, des facteurs locaux, qui vont expliquer, qui vont être, effectivement, manipulés, utilisés, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est un affrontement, à la base, entre l'Arabie Saoudite qui a pris peur à partir du moment, effectivement, je pense que la chute de Saddam Hussein est un facteur déclenchant où ils voient effectivement ils ont compris que là, ils n'ont pas eu tort finalement, l'équilibre géopolitique de la région était perturbé du fait que l'Irak est tout d'un coup devenu gouverné par les chiites. À partir de là, ils sont en affrontement, on va dire, avec l'Iran, c'est clair.
Et est-ce que les autorités iraniennes aujourd'hui font preuve d'une volonté, on va dire, déclarée d'exercer une influence majeure dans la région? Vous qui allez dans le pays,
Non, mais j'y vais en Iran. Je sens absolument pas. C'est pour ça que, si vous voulez, bon, moi, je parle de mon expérience. Je sens absolument pas ce qu'on nous raconte quand j'entends Netanyahou parler. Vous me direz, c'est spécial, mais du genre l'Iran envahit le Moyen-Orient, c'est absolument. Je pense, c'est pas ce que je sens. C'est pas du tout la réalité. L'Iran, si vous voulez, il faut voir, c'est que le pouvoir iranien résonne très de manière stratégique. Si vous voulez, quelles sont ses menaces stratégiques? Je veux dire, c'était l'Irak. Et ils prennent jamais des risques inconsidérés. Je vous dis, donne des exemples. Quand les chiites se sont révoltés après la première guerre d'Iraq contre Saddam Hussein, voilà, si vous voulez, c'est pour un petit peu pondérer tout ça. C'était des chiites, ils se sont révoltés contre Saddam Hussein. Tout le monde a dit oui, l'Iran va intervenir. L'Iran a calculé qu'est-ce qu'on a gagné. Pourtant, c'était des chiites. Ils se sont fait massacrer, rappelez-vous, par Saddam Hussein. L'Iran n'a pas bougé. Si vous voulez, ils sont très. Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est tout ce calcul. Quand les talibans ont massacré des diplomates iraniens en 1998, il y a eu tout un débat en Iran. Est-ce qu'on y va ou pas? Ils ont dit, oh là là, attention, finalement, le consensus était, regardez ce qui est arrivé aux Russes, on va surtout pas avoir une aventure. Donc, globalement, ils ont quand même envahi personne depuis 300 ans. Donc, ce qu'on nous sort sur l'Iran envahit le Moyen-Orient. Par contre, ce qui est vrai, faut pas être naïf non plus, ils se considèrent comme une puissance importante dans la région. Ils vont jouer des ressorts chiites, mais pas forcément chiites. Ils soutiennent le Hamas qui est sunnite, donc ils veulent avoir une influence, mais je crois qu'il faut pas voir cette influence, si vous voulez, c'est plus une influence multiforme. Avec, ils ont une théorie du soft power aussi, une influence culturelle, une influence historique. C'est surtout pas une influence, ils vont attaquer les autres, ça, c'est n'importe
alors,
quoi.
Alors j'aimerais avoir l'avis de Denis Bochard sur cette analyse.
Oui, je crois que l'Iran est devenu, c'est clairement un acteur incontournable au Moyen-Orient en général, non seulement dans le Golfe Persique, mais également dans l'ensemble du Moyen-Orient. Pour différentes raisons, et là, la responsabilité des États-Unis est énorme. En intervenant en Irak en 2003, et en mettant en place un gouvernement chiite, certes démocratique, puisque les chiites étaient majoritaires en Irak, ils ont en quelque sorte mis en place un gouvernement qui, je dirais spontanément, c'est parce qu'il était chiite, avait des affinités avec l'Iran. D'ailleurs, beaucoup de responsables chiites en exil se sont trouvés en Iran pendant de nombreuses années. Et donc là, en quelque sorte, il y a eu de la part des États-Unis, je dirais, une responsabilité dans le développement de l'influence de l'Iran en Irak. Alors par ailleurs, il se trouve que depuis de nombreuses décennies, il y avait une alliance stratégique entre la Syrie et l'Iran, qui était lié à différentes raisons, non pas tellement parce que les Alaouites sont en chiite et qu'il y avait un gouvernement dirigé par la minorité alaouite, mais parce qu'ils avaient des intérêts, je dirais, stratégiques, notamment le sentiment d'être isolés, qui les ont rapprochés. Donc, dans le cadre du printemps arabe, assez spontanément, l'Iran est venu au secours de Bachar al-Assad, en particulier à partir de la mi-2012, à un moment où effectivement il est apparu qu'il y avait un risque que le régime syrien ne s'écroule. Alors, ils sont intervenus, je dirais, massivement.
La présence de l'Iran en Syrie, là, elle est incontestable.
Militaire. Oui, mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, non, je suis tout à fait d'accord, mais c'est des calculs stratégiques. Il faut voir ça dans la stratégie de l'Iran. Effectivement, la Syrie fait partie de ce qu'ils appellent l'axe de résistance contre Israël, avec le Hezbollah et donc le régime de Bachar el-Assad. D'autre part, ils avaient très peur que l'État syrien s'écroule, et on faut se mettre de leur côté, et que se retrouve à la tête, regardez la Libye, à la tête de la Syrie, des groupes djihadistes fondamentalement anti-chiites, et qui auraient pu mettre le feu, on le voit, à la Syrie et à la région. Donc, ils ont envoyé, ils le disent, ça c'est très clair, ils le disent, on a des conseillers militaires qui aident l'armée syrienne. Le Hezbollah libanais, sans doute sur la demande de l'Iran, intervient toujours en Syrie, donc c'est très clair. Mais je veux dire, par là, vous voyez, c'est pas comme ils envahissent l'île, c'était un allié, le seul allié arabe de la région qu'ils avaient, qui sont allés aider, et ils avaient d'autre part peur de la montée en puissance de groupes comme l'État islamique en Syrie.
Alors, est-ce que le retour possible, probable, maintenant, de l'Iran dans le concert international, après la levée des sanctions, probable elle aussi, va faire de l'Iran un pays plus riche, peut-être plus ambitieux, plus dangereux, je ne sais pas.
Bon, plus riche... Il y a encore du travail, hein. C'est-à-dire il faut pas non plus exagérer. Alors, c'est vrai que les sanctions a priori vont être levées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que elles vont quantitativement, ça n'a pas été. L'Iran, comme vous savez, le prix du pétrole s'est effondré depuis la mi-2014. Donc si on fait des petits calculs, l'impact sur la croissance, l'Iran, la croissance ne va pas d'un coup exploser en Iran, si vous voulez. Par contre, je pense qu'il y a un élément très important, c'est psychologique. Ça va vraiment donner confiance aux acteurs économiques. La monnaie iranienne va sans doute se renforcer, ça va baisser l'inflation, donc ça va diminuer la pression sur la population. Et puis le secteur privé iranien, il n'y a pas que le secteur privé iranien, le secteur public attend beaucoup de contrats avec des entreprises américaines, japonaises, françaises, on l'espère, etc. Donc effectivement, l'économie iranienne doit se porter mieux. Leur ambition stratégique, elle a toujours été là. Et donc, ça fait partie des calculs, notamment du guide Ali Khamenei et des dirigeants iraniens. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient trop isolés. Ils veulent asseoir, effectivement, leur statut de puissance régionale. Et ça passerait éventuellement par une alliance, mais alors ponctuelle et a priori limitée, avec les États-Unis pour un certain nombre de crises.
Je reviens à la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et je m'adresse à vous, Denis Bochard. Est-ce qu'elle pourrait aboutir à un conflit direct entre les deux pays, vous pensez?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Simplement, il reste manifestement un problème entre les deux pays. Il n'est pas sûr que le roi Salman poursuive la politique aussi dure que celle qui avait été engagée par son prédécesseur, le roi Abdallah. Et je pense que l'Arabie Saoudite ne peut pas, je dirais, indéfiniment prendre une position aussi dure, car je ne pense pas qu'elle ait les moyens militaires, je dirais, de s'opposer vraiment à l'Iran, sauf, je dirais, par intermédiaire, par procuration. D'ailleurs, on va voir ce que va donner l'intervention saoudienne au Yémen. On peut douter de son efficacité. Il est clair qu'on ne gagne jamais une guerre avec des frappes aériennes. Or, il est peu probable que l'Arabie Saoudite envoie des troupes au sol dans un pays aussi montagneux, aussi difficile que le Yémen. Je pense que l'Arabie Saoudite va devoir faire contre fortune bon cœur certainement sous la pression américaine, va devoir peut-être effectivement engager un processus de réconciliation avec l'Iran.
Réconciliation avec l'Iran.
Oui, alors c'était très intéressant, c'est que quand Rouhani a été élu, effectivement, le dossier principal qu'il avait sur le nucléaire, mais ce qu'on lisait chez les analystes iraniens, deuxième dossier, c'était rétablir la confiance avec l'Arabie Saoudite. Et on disait, ce qu'on disait à la presse iranienne, c'est qu'il était bien placé, il avait une assez bonne image dans les monarchies du Golfe Persique pour réussir ça. Bon, depuis, effectivement, c'est un peu tombé à l'eau. Il y a deux stratégies en Iran. Il y a les durs qui disent, faut répondre, on est face à une stratégie d'agression saoudienne, il faut répondre coup pour coup, notamment les passes d'Aran. Il y a des partis du pouvoir iranien qui voudraient effectivement négocier. Alors on parlait beaucoup d'Hashimi Rafsanjani, l'ancien président, comme quelqu'un capable effectivement de négocier avec l'Arabie Saoudite. Bon, c'est aussi des questions de politique interne. Hashimi Rafsanjani est très critiqué par une partie, donc ils veulent pas lui donner cette opportunité. Mais c'est sûr que je pense qu'il va y avoir effectivement des tentatives de dialogue entre les deux pays. Ce qui serait peut-être bien, c'est que d'autres pays, d'autres pays favorisent ça, parce que je pense que c'est très dangereux à terme que ces deux pays s'affrontent.
Et c'est possible ? Est-ce que l'Occident ne va pas être dans la nécessité de faire un choix entre l'un et l'autre ?
Non, si vous voulez, je pense qu'il faut être un peu intelligent, enfin, excusez-moi, mais alors là, c'est pour pas trop critiquer la position française, mais je veux dire, moi je pense que le rôle de la France, au lieu de vouloir, alors c'est peut-être simplement un affichage, s'afficher autant du côté de l'Arabie Saoudite contre l'Iran, je pense qu'on a un rôle à jouer, les Américains, je pense qu'il faut absolument favoriser le dialogue entre ces deux pays.
Denis Bochard, en quelques mots pour conclure.
Je pense que la situation est encore assez ouverte et que différents scénarios effectivement peuvent se réaliser et certains optimistes, d'autres un peu moins optimistes.
À suivre. Et sur RFI entre autres. Merci à tous les deux. Denis Bochard, ancien ambassadeur en Jordanie, ancien président de l'Institut du Monde Arabe et conseiller à l'IFRI. Je rappelle le titre de votre bouquin, Le Nouveau Monde Arabe aux éditions André Versailles et Thierry Coville. Vous êtes vous à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et votre livre s'appelle Iran, la révolution invisible. Merci également à Florence Ponce et à Cécile Périard. Vous téléchargez cette émission sur notre site internet. Demain, Romain Ozou et ses invités évoquent la production du cacao en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.